Vous écoutez
RMC.
6h30 et vous êtes bien sur RMC, le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Après le 49-3 et la prise de parole d'Emmanuel Macron, la mobilisation prend de l'ampleur, des Français massivement mobilisés, rejoints par de nombreux étudiants. Manifestations émaillées de nombreux débordements dans plusieurs villes du pays, 172 interpellations. Hier, Gérald Darmanin dénonce la violence de casseurs souvent venus de l'extrême gauche. En attendant la prochaine journée de mobilisation mardi, plusieurs secteurs poursuivent la grève. C'est le cas des éboueurs à Paris. Le mouvement s'étend.
Les Français mobilisés en masse hier pour la 9e journée d'action contre la réforme des retraites.
Ils étaient plus de 3,5 millions à descendre dans la rue selon la CGT, un peu plus d'1 million selon les autorités. Les mots d'Emmanuel Macron n'ont donc pas calmé la colère, bien au contraire. Dans les cortèges de plus en plus de jeunes, 500 000 selon l'UNEF, une jeunesse déterminée. Illustration à Rennes, Mao Bécard-Granier.
C'est un vrai baptême du feu pour Iris, 19 ans. Cette étudiante est venue gonfler les rangs des jeunes contre la réforme.
Bah, je pense qu'on est plus nombreux parce que moi, c'est la première fois que je fais une manifestation à Rennes ici. C'est vrai qu'avant, j'étais pas trop intéressée par la politique et les discussions entre amis, c'est vrai que ça a un gros impact.
Juste derrière, un petit groupe de 6 lycéens, les yeux grands ouverts et le sourire aux lèvres.
On chante, on lance des slogans, on met de l'ambiance un peu et de l'énergie, quoi.
Première aussi pour Antonin, 15 ans, convaincu par les discussions avec son père, agent d'entretien pour les espaces verts.
Je le vois tous les jours revenir avec un mal de dos alors qu'il a à peine 54 ans. Reculer encore de 2 ans, je trouve ça ridicule.
Les jeunes beaucoup plus nombreux mais aussi plus déterminés, voire violents. En fin de manifestation, il n'y a plus que des étudiants qui font face aux forces de l'ordre. Une violence justifiée pour Laura, 19 ans.
Les personnes plus âgées n'ont pas forcément envie de partir dans la violence parce qu'ils ont peut-être plus de choses à perdre. C'est pas forcément leur façon de faire. Après, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont arrivés à un stade où ils n'en peuvent plus, où ils se disent que la violence c'est le dernier moyen pour se faire entendre. En fait.
Ils se sont mobilisés sur le tard, mais maintenant que la machine est lancée,
on s'arrêtera pas, on n'attendra pas un jour de plus, il faut continuer.
Les jeunes Rennais se sont déjà donné rendez-vous ce matin à 11h en centre-ville.
Et les syndicats annoncent une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera mardi prochain, le 28 mars. Une mobilisation marquée hier par un regain de tension. Plus de 140 départs de feu recensés à Paris, à Bordeaux. L'entrée de l'hôtel de ville a été incendiée. Le maire, Pierre Urmic, dénonce un acte criminel. Des bâtiments publics également pris pour cible à Nantes et Lorient. Au total, 149 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Plus de 172 interpellés. Gérald Darmanin dénonce des attaques inacceptables de la part de casseurs voulant, je cite, tuer des policiers et mettre à bas l'État. Dans le viseur du ministre de l'Intérieur, principalement des membres de l'extrême gauche, un sujet sur lequel gouvernement et opposition se renvoient la balle, Cyprien Pézeril.
Des bâtiments publics ciblés et dégradés, des feux de poubelle, des blessés. Et c'est avant tout la gauche qui en est responsable, accuse l'élu Renaissance, Shannon Seban.
Une partie des élus de la coalition de la NUP apporte de la légitimité à ces mouvements-là. Est-ce qu'à un moment, vous avez vu un tweet de condamnation, une interview télévisée ou à la radio de l'un de ces élus qui condamnait fermement les violences auxquelles on a pu assister ? Non, jamais. Bien au contraire.
Mais la NUPES répond, Emmanuel Macron a choisi la confrontation directe et c'est lui qui attise les tensions, déplore l'écologiste Yannick Jadot.
C'est le président de la République qui tient l'allumette et qui allume des petits feux un peu partout. Là, il a bloqué le pays depuis des mois, faut qu'il arrête de l'embraser.
Une stratégie délibérée, estime Fabien Roussel, le patron des communistes.
Le président fait le pari du chaos dans le pays. On est passé des manifestations pacifiques à la matraque. Et le président de la République se comporte en République comme un casseur.
Et même dans la majorité, un député admet hors micro une responsabilité du président. Je le cite, avec le 49-3 et en associant les manifestants à la foule, on ne pouvait pas s'attendre à une autre réaction.
Et ce matin, la mobilisation se poursuit dans les raffineries avec toujours des tensions à la pompe. Au moins 15% des stations-service du pays manquent d'au moins un carburant. Conséquence à Gonfreville en Normandie, les forces de l'ordre ont délogé dans la nuit les manifestants qui bloquaient le site afin de laisser entrer les salariés réquisitionnés. Non loin de là, à Port-Jérôme, également menacé de réquisition. La production a été mise à l'arrêt pour au moins 10 jours. Poursuite de la mobilisation aussi des éboueurs à Paris. Malgré les réquisitions, 9500 tonnes de déchets continuent de joncher les rues de la capitale. La grève entamée le 6 mars doit perdurer jusqu'à au moins lundi. Et désormais, Solène Leroux, les salariés du privé se joignent progressivement à leurs collègues du public.
Des déchets qui volent, des poubelles qui débordent, très peu pour Catherine.
On a beaucoup, beaucoup de poubelles tous les jours. Donc quand elles ne sont pas vidées, ça devient insupportable.
Les habitants du 10e étaient jusque-là épargnés, mais ça n'inquiète pas Camille.
Il y a suffisamment de bacs et les gens sont suffisamment consciencieux pour ne pas en mettre partout. Si on devait attendre quelques jours.
En attendant, la moitié de la capitale croule sous les ordures et d'autres arrondissements vont bientôt subir le même sort puisque c'est au tour des éboueurs privés comme Ali Chaligui de se mettre en mouvement.
Là aujourd'hui, ça s'est élargi à d'autres sociétés du privé sur le périmètre de Paris. Nettoiement urbain notamment,
collecte, tri, assainissement, incinération.
C'est tout un secteur qui se mobilise contre la réforme, mais aussi pour de meilleures conditions de travail, au moins à hauteur de celles du public. Très heureux de les voir rejoindre le mouvement. Bobby était boueur dans le 6e arrondissement.
On attend que ça depuis le début. On nous a divisé en privatisant une partie. Nous, on voulait leur prouver qu'on était capable de se coordonner. Pour l'instant, la stratégie fonctionne et elle n'est pas prête de s'arrêter.
Avec des conséquences bien visibles, 9600 tonnes de déchets dans Paris hier. Un chiffre stable malgré les réquisitions ordonnées par la préfecture.
Et encore des perturbations aujourd'hui sur les rails à la SNCF. 3 TGV sur 4, 3 TER et Intercité sur 5. Trafic compliqué également en Ile-de-France sur les RER et Transilien et aussi dans les airs. Il est 6h36 sur RMC. Deux enquêtes ouvertes à Lille après la mort d'un lycéen en pleine épreuve du bac mardi, victime d'un malaise cardiaque. La première enquête judiciaire, la seconde administrative, les précisions de Lucille Pascanet.
Ce jeune homme était atteint d'une maladie grave du cœur et portait un pacemaker. Il avait quitté son Algérie natale à 3 ans, en 2007, pour être soigné en France, au CHU de Lille. Une enquête préliminaire a été ouverte dès mardi pour établir avec certitude les causes de sa mort soudaine, en pleine épreuve d'économie. Une autre enquête a été lancée hier par le ministre de l'Éducation, cette fois sur le volet administratif. Son but, faire la lumière sur un éventuel manquement dans la prise en charge de l'adolescent avant l'arrivée des pompiers. Selon plusieurs élèves présents dans la salle, il serait resté inconscient sur le sol pendant plusieurs minutes sans assistance de la part des surveillants. Les résultats de cette enquête sont attendus d'ici un mois. Le ministre a présenté ses condoléances à la famille de l'élève mercredi. Il se rendra dans l'établissement dès lundi.
Et Lucille Pascanet, service police justice, RMC. Début d'une nouvelle ère pour les Bleus, opposés ce soir aux Pays-Bas. Mbappé, nouveau capitaine. Maignan, nouveau gardien. France-Pays-Bas, c'est le premier match des éliminatoires, comptant pour l'Euro 2004 ce soir à 20h45. Et c'est à suivre sur RMC.
Et puis en nocturne également, les courses, c'est à Vincennes.
En 20h15 sur RMC, découverte en direct. Le 16, Grit of Madrid, qui est le favori de la Dream Team RMC. L'Outsider, c'est le 14, Floréal, le 16 et le 14.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 6h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Plus de monde, mais plus de violence aussi. 9e journée de mobilisation hier dans la rue. Est-ce que vous y étiez? Venez donc témoigner au 32-16. Dites-nous ce que vous avez vu. Dites-nous comment ça s'est passé. Dites-nous si vous étiez la journée dans des mouvements plutôt pacifiques ou le soir dans les moments où ça a castagné. Et est-ce que vous redoutez ces violences pour la prochaine mobilisation? Il y a une manifestation prévue à nouveau le 28. Êtes-vous solidaire avec les blocages des raffineurs, des éboueurs? Quentin vous attend au standard. On en débat tous ensemble. On est avec Charles, Manu et Nicolas, tout de suite.
RMC Police Justice.
Mais d'abord, l'histoire du jour repérée et racontée par le service Police Justice d'RMC. Ce matin, Guillaume Bier, vous nous racontez l'histoire de cette patiente érotomane qui a littéralement harcelé ses médecins.
Ah oui, une jeune femme très très amoureuse de ses praticiens et surtout follement persuadée d'être aimée en retour. Une passion débordante, envahissante et en réalité maladive. Cette patiente de 28 ans souffre d'une érotomanie aiguë qui a eu de lourdes conséquences pour deux de ses médecins, un psychologue et un chirurgien esthétique. Au début, la jeune femme se contente de leur envoyer des courriels sur des questions médicales, plusieurs fois par jour. Puis les messages virent à la tentative de séduction et finissent par dégénérer en discours de haine. Et pas seulement par mail, les deux praticiens ont aussi été harcelés par SMS, appels téléphoniques et même des tags sur la devanture de leur cabinet, racontent nos confrères du Progrès. Des mois de harcèlement, un véritable calvaire, raconte l'avocat d'un des médecins. Son client a même dû fermer provisoirement ses locaux et ne faire que des consultations en visio. Les victimes ont porté plainte, mais la garde à vue de la patiente a tourné court en raison de son état de santé. Son discernement est aboli d'après un expert qui pointe chez elle un délire de persécution. Dans ces conditions, le tribunal de Vienne l'a bien déclaré pénalement irresponsable, mais l'a tout de même condamné à des mesures de sûreté, comme l'interdiction d'approcher ou de recontacter ces deux médecins.
Le récit de Guillaume Biéchef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h41, excellent réveil à vous tous.
C'est votre avis.
Beaucoup de monde hier dans les rues de toute la France pour la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des records de mobilisation battus à Rouen, à Brest, à Agen, à Montpellier et peut-être même à Paris. Davantage de manifestants, mais aussi plus de violence et plus de dégradation. Plusieurs heures d'affrontements à Paris. Un commissariat pris pour cible à Lorient, le portail de la mairie de Bordeaux qui a été incendié. Et pour Simon Duteil du syndicat Solidaire, la responsabilité de ces violences, elle est toute trouvée. Écoutez.
Comment on peut regarder, si on prend un petit peu recul, des manifestations ultra-massives, des millions de personnes dans la rue et des gens qui se font tabasser, attaquer par les représentants de l'État, des fonctionnaires qui vont les taper dessus dans la rue parce qu'on dit « là, vous n'avez pas le droit de manifester ». C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, on est en colère là. Nous, on a des camarades, ils sont à l'hôpital. Et blessés, on ne sait pas encore le degré de gravité. Il y a des yeux qui sont touchés. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont graves, quoi. Et vous avez dû voir, il y a des images. On voit des jeunes au sol qui se font taper, attaquer dans le dos. On voit des motos qui roulent sur des manifestants. Mais on est où, là ?
Ces violences, cette colère qui est exprimée dans chacune des prises de parole du côté des manifestants. Il faut aussi mentionner qu'il y a eu près de 150, peut-être même 160 policiers qui ont eux-mêmes été pris pour cible et blessés. J'attends vos témoignages ce matin, vos témoignages parce que vous étiez peut-être dans ces manifestations. Dites-nous ce que vous avez vu, dites-nous si c'était des manifestations bon enfant, pacifiques, si au contraire vous avez vu des moments où ça dégénérait. Est-ce que ça vous inquiète d'ailleurs, cette violence, cette radicalisation des manifestations. À noter également qu'il y a déjà un appel à une nouvelle journée de mobilisation. L'intersyndicale qui s'est réunie hier a demandé à ce que la journée du 28 soit à nouveau une journée de mobilisation. Il y a Alexis qui nous appelle de Saint-Cellerin. Vous êtes dans la Sarthe. Bonjour Alexis.
Oui, bonjour Alexis. Oui, c'est ça, originaire de la Sarthe. Ouais, mais je suis conducteur routier, donc je suis sur la route toute la semaine.
D'accord. Et vous êtes où là au moment où on se parle, Alexis ?
Là, je suis sur Cholet.
Sur Cholet, d'accord. Et Alexis, vous avez vu des manifestations, vous avez participé à des manifestations. Comment vous vivez tout ça ?
Eh bien, moi, ça fait 15 jours, comme mes collègues, je pense, ça fait à peu près 15 jours qu'on est vraiment là, vraiment embêtés sur la route, quoi. C'est que, on est bloqué sur la route et on est spectateur des manifestations, justement, sans vraiment y participer.
Vous auriez voulu y participer, Alexis ?
Alors, moi, pour être complètement franc, la réforme, j'y étais pas complètement opposé parce que je suis encore jeune et je me dis que j'ai le temps.
Vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans.
D'accord.
Et après, c'est la façon dont ça a été fait et comment c'est passé. Et là, oui, là, ça m'a un peu plus en grogne, ouais.
En fait, vous faites partie de ceux, et honnêtement, ils sont nombreux et on l'entend là. Il y a eu vraiment un regain de mobilisation, mais aussi un regain de colère. Non pas tant sur la réforme elle-même, ça c'était vraiment les deux premiers mois, la mobilisation. Mais là, c'est réforme plus 49.3, c'est-à-dire qu'il y a une colère aussi sur la méthode, le déni de démocratie, comme certains disent.
Et la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on entend aussi, c'est que ça a plus mis de l'huile sur le feu, poussé des gens à descendre dans la rue que l'inverse.
Ça a poussé les gens à descendre dans la rue, ça a poussé notamment la jeunesse qui n'était pas présente jusqu'alors. Alexis, si ça continue, est-ce que vous redoutez une forme de violence ?
Alors je la redoute, non, pas vraiment, parce qu'au bout d'un moment, il faut changer les choses. Comme je disais, moi je n'ai jamais manifesté, je suis quelqu'un qui n'est pas violent, jamais de problème avec les forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Mais au bout d'un moment, quand on voit qu'on se fait pas entendre, on fait quoi? Parce que quand on est pacifique et qu'on dit rien et qu'on essaie de voter, et finalement, on n'est pas tous d'accord et que ça change pas, ça bouge pas. Et quand ça devient violent, c'est là qu'on a entendu, comme on a vu un peu avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, j'étais déjà sur la route et quand ça commence à être un peu débordé, choses comme ça, là, le président de la République a enfin parlé, avait enfin fixé quelque chose qui, même si pour moi, était des miettes de pain. Je redoute pas, mais je pense que vraiment ça va s'intensifier parce qu'on le voit bien tous les jours. C'est plus des manifestations où on est devant un rond-point, où on distribue des tracts. C'est des manifestations où il y a le feu devant vous et c'est terminé. On sent la tension qui est présente et c'est pas ce qui était avant. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai connu avant sur la route.
Non, c'est ce qu'il y avait. Effectivement, c'est vraiment aussi cette violence comme quelque chose qui dit, on était très très nombreux et vous ne vous avez, on était très nombreux, on était calme, vous ne nous avez pas entendu. Est-ce qu'il faut radicaliser pour que vous nous écoutiez? J'en profite, Alexis, quand vous êtes sur la route, du côté du carburant, est-ce que vous avez pu observer des difficultés ou est-ce que ça va?
Eh ben justement, ça va commencer à être compliqué si ça continue parce que on va pas faire les pleureuses parce qu'en soi, manifester, c'est compliqué parce qu'on travaille, on part à la semaine et tout, donc c'est compliqué de bloquer complètement toute la semaine. Mais moi, je vois, hier, je suis remonté je suis arrivé à Rodez, il y en avait à côté de Rodez, il n'y en avait plus du tout.
D'accord.
J'ai trouvé une station en remontant à Brive-la-Garade, il me restait 20% de gasoil dans le camion, donc c'était très compliqué. Une queue, pas possible. Ouais. Et donc, mes collègues me disaient que sur Limoges, tout ça, ça commençait à être compliqué et dans les stations, il n'y en a plus, quoi.
D'accord. Et là, vous êtes dans le coin de Cholet et ça va ?
Après
vous remontez quoi ? Vous remontez vers Nantes ? Vous allez où ?
Je vais sur Rennes, et après je remonte sur Le Mans. Mais moi, j'ai prévu pour la fin de semaine. Du coup, là, c'est fait, mais si ça continue, ça va toucher de plus en plus.
Ça va devenir de plus en plus compliqué. Et l'Ouest, après les Bouches-du-Rhône, c'est désormais l'Ouest qui est en effet le plus touché. Donc, dans le coin où vous vous trouvez. Alexis, restez avec nous. Il y a aussi Patrick qui nous appelle au 32-16. On part encore un peu plus à l'Ouest, puisque vous êtes à Brest. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Apolline.
Patrick, vous avez manifesté, vous, hier. Racontez-nous.
Oui, hier, j'ai manifesté. Alors, rapidement, moi, je suis apolitique. Je suis plutôt d'une culture de droite parce que mon grand-père était gaulliste et mon père était Giscard.
Ouais.
Maintenant, je bosse depuis mes 15 ans dans différents domaines, dans le milieu de la nuit, pendant 30 ans sur les marchés. Bon, bref, j'ai fait moult boulot.
D'accord.
Et aujourd'hui, à 65 ans, je suis dans le nettoyage parce que j'ai encore besoin de travailler. Donc, moi, la seule chose qui m'interpelle, parce que dans mon environnement, je vois quand même pas mal de gens différents, quelle que soit leur situation, c'est que depuis une bonne quinzaine d'années, quand on voit les différents gouvernements qui se sont succédés, maintenant pour voir le deuxième mandat de Macron, c'est quand même incroyable que sur des choses totalement basiques, donc la dureté du boulot, j'ai des potes, ben moi dans le nettoyage je vois ce qu'on fait, j'ai des potes qui sont dans le ravalement, j'ai des potes qui bossent sur le terrain, mais quand on voit les salaires et que l'on voit la façon dont ces gens travaillent avec assiduité, même le week-end, parce qu'il y en a certains qui sont à leur propre compte, et que j'ai vu, j'ai regardé, malgré le fait que je travaillais, une partie du débat, mais c'est une honte.
Mais Patrick, quand vous dites le débat, vous voulez dire l'interview là, qui a eu lieu à 13h?
Bien évidemment.
Et vous avez trouvé que c'était une honte?
Ah ben, c'est une honte, oui, c'est une honte, oui, effectivement.
Patrick... Oui. Patrick, quand vous dites que vous avez commencé à travailler à 15 ans, qu'à 65 ans, vous êtes obligé de continuer à travailler dans le nettoyage, donc c'est un travail très physique. Patrick, vous allez continuer cette mobilisation, y compris s'il y a des violences?
Mais bien évidemment, et écoutez, je vous l'ai dit, moi je suis apolitique, je suis bien évidemment contre la violence, mais je ne fais pas partie d'un mouvement ou un autre. Moi j'ai bossé en discothèque pendant des années, et l'accueil en discothèque c'est beaucoup de psychologie, c'est du recul, c'est pas avec ses bras qu'on travaille, donc je suis contre ça. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien, il mérite de se faire botter le cul. Il n'y a pas d'autre solution et il n'y a pas d'autre formule.
Vous parlez de Macron, vous parlez d'Emmanuel Macron ?
D'Emmanuel Macron et de tous les couillons qui l'entourent. Et vous savez, quand vous voyez des extrémistes, parce que moi je suis contre l'extrémisme, et en parlant d'immigration, moi je travaille avec la diversité. Et je connais tout un tas de gens issus de la diversité qui sont mes travailleurs, qui souffrent de ce qui se passe au niveau de l'immigration. Ces gens-là, depuis presque 20 ans...
Pour autant, Patrick, j'entends parfaitement, et cette colère, elle s'exprime énormément. Elle s'exprime non seulement sur notre antenne, et c'est bien important qu'on puisse vous entendre, elle s'exprime dans les rues, avec quand même toujours une limite. C'est à quel moment est-ce qu'on doit cesser d'accepter cette violence? Est-ce qu'on doit la légitimer? Où est-ce que ça s'arrête? Ces questions-là, je vous les pose à vous, mais je les poserai aussi aux politiques. J'aurai François Ruffin tout à l'heure, qui sera mon invité à 8h30. Condamnera-t-il les images de violence, non seulement dans les rues, mais aussi contre des élus, contre des symboles de la République, contre la mairie de Bordeaux ou le tribunal de Nantes? Toutes ces questions, je vous les pose à vous, je les reposerai à eux. Restez bien sûr à RMC, il est
6h50. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, il y aura le portrait du jour, Nicolas.
Et c'est Yannick Moraes, un maire de Loire-Atlantique qui a été victime d'un incendie volontaire.
Et vos histoires, Charles?
Ça va être visqueux et humide, on va parler mollusques.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et le portrait du jour de Nicolas Poincaré, c'est à 6h53.
Le portrait du jour.
Vous nous dressez le portrait ce matin, Nicolas, de Yannick Moraes. C'est un maire de Loire-Atlantique. Il a été victime d'un incendie volontaire.
Oui, ça s'est passé mercredi matin à l'aube. Yannick Moraes dormait chez lui avec sa femme lorsque leurs deux voitures ont pris feu. L'incendie a vite atteint la façade de sa maison et a commencé à toucher une des pièces. Des voisins ont alors sonné à la porte pour alerter le maire. Heureusement, dit-il, s'il n'avait pas été rapidement réveillé, cela aurait pu être beaucoup plus grave. L'élu a porté plainte. Il se dit choqué et il dénonce une attaque lâche et inadmissible. Yannick Moraes a 61 ans, c'est un maire sans étiquette, passionné de voile. Il ne fait pas de la politique depuis longtemps. Il n'est que depuis moins de deux ans le maire de Saint-Brévin-les-Pins, une ville de 13 000 habitants juste en face de Saint-Nazaire, à l'embouchure de la Loire. Il a été élu à la surprise générale lorsque son prédécesseur est devenu député. Il est médecin de profession et il a gardé sa patientèle. Il expliquait récemment que ses deux activités, maire et médecin, avaient ceci en commun: de demander un haut sens des responsabilités.
Et qui peut en vouloir à cet élu local ?
Alors, l'enquête devra le dire, mais on sait que le climat dans la ville est pourri depuis un moment à cause d'un projet d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Il doit ouvrir à la fin de l'année près d'une école dans cette station balnéaire. Il y a moins d'un mois, les opposants au projet s'étaient physiquement heurtés à ceux qu'ils défendent au cours d'une manifestation. Près de 250 gendarmes avaient été mobilisés pour s'interposer. Le maire est favorable à l'ouverture de ce centre pour les demandeurs d'asile. Il a reçu récemment des menaces de mort dans sa boîte aux lettres, histoire de bien lui montrer qu'on savait où il habitait. Pour l'instant, on ne peut pas affirmer que l'incendie volontaire soit lié à cette polémique, mais on ne peut certainement pas l'exclure non plus.
Et ça prend évidemment place dans ce contexte où un certain nombre de permanences d'élus ou la mairie de Bordeaux, elles, ont été incendiées, même si là, le contexte de violence est quand même impressionnant. Tout autre chose, heureusement qu'il y a les mollusques.
Les histoires de Charles.
Bah oui, parce
on va commencer
parce
par
que
un prénom déjà, Charles.
Parce que c'est sans viser.
Et puis au pluriel, je le prends mal aussi pour Manu et Nico. Non,
Charles qui ce matin nous parle d'une élection au suspense haletant. Je viens de vous donner le résultat.
Bah oui, le concours du plus beau mollusque de l'année. C'est très sérieux, organisé par le Centre d'études de la biodiversité génomique, basé à Francfort en Allemagne. Depuis le début du mois, les internautes sont invités à voter pour départager les 5 mollusques finalistes présélectionnés par les chercheurs parmi 85 000 espèces, car c'est l'objectif de ce concours, je cite, mieux faire connaître la riche diversité des mollusques.
Mais oui, c'est vrai qu'on les connaît pas assez.
Mais oui. Et parmi les candidats cette année étaient donc en lice la limace léopard, l'escargot de mer sans coquille, l'huître géante des profondeurs ou encore la limace de mer à cornes. Ça fait rêver, mais le grand gagnant, celui qui a tapé dans l'œil du public cette année, c'est l'ormo chilien, un coquillage surnommé El Loco, qui recueille 42% des suffrages et qui a donc surtout gagné le droit de voir son génome cartographié par les chercheurs afin de mieux comprendre son évolution, ses avantages potentiels pour l'humanité. Mais oui, il y a un
sens. Des beaux avantages.
Mais oui, la directrice du centre de recherche nous explique que de tous les invertébrés, les mollusques sont les plus appréciés par l'homme. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Bref, les mollusques sont nos amis.
Les mollusques sont nos amis. Vous voulez peut-être en refaire une petite chanson, Charles ?
J'ai failli. Non. Et je me suis retenu pour le bien de tous.
C'était les histoires de Charles. Il est 6h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal avec à la une du journal de 7h des symboles de service public pris pour cible hier soir et pendant une partie de la nuit.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.